C'était il y a une semaine, le 16 janvier cette année, que l'on déclinait aux États-Unis le Martin Luther King Day, fêté chaque année le troisième lundi du mois de janvier, autour du 15 janvier, date d'anniversaire du pasteur assassiné. On va retrouver Gilles Vandal, professeur à l'université de Sherbrooke, pour évoquer cette figure qui a étendu son aura pour la lutte des droits civiques jusqu'au Canada et même plus loin chez nous en Europe.
La première, le fin mot, Eddie Kackelbergs.
The technique of non-violent direct action has not only become the accepted method of the civil rights movement, but beyond that, the vast majority of all Americans now support and approve it.
Martin Luther King, 20 minutes ago, died. I ask every citizen to reject the blind violence that has struck Dr. King.
Je demande à tous les citoyens de rejeter la violence aveugle qui a causé la mort du Dr. Martin Luther King, un homme vivait par la non-violence.
Tout Américain blanc devrait être honteux et inquiet. Honteux parce que derrière les scénarios qui laissent sceptiques, il y a deux crimes. Ces crimes indiquent que l'Amérique est gravement malade. Tout le problème de la ségrégation aux USA est posé.
Well, there's no doubt about the fact that the economic problem is,
il n'y a aucun doute que le problème économique est sérieux et étroitement lié à toute la question raciale. Aussi longtemps que les Noirs subiront une exploitation économique, seront tenus à l'écart des grands courants de la vie, l'élévation du niveau de vie est dans une large mesure la première marche de l'émancipation des Noirs. C'est là le fondement essentiel dont ils ont besoin pour agir comme des citoyens de plein droit. Je suis donc le premier à croire que le problème économique est un des problèmes les plus importants.
Bonsoir Gilles Vandal.
Bonsoir.
Il sort de quel milieu Martin Luther King?
Il vient d'une longue lignée de pasteurs afro-américains. Les idées afro-américaines avaient une vision théologique différente de ce qui était des églises blanches, entre guillemets.
Ça veut dire aussi que ses mentors de son action sociale, ce sont des religieux.
Martin Luther King n'a jamais eu de doute au niveau de sa foi. Il a inculqué toutes les valeurs de la tradition afro-américaine concernant la religion. Donc, pour lui, la question ne se pose même pas. Il va aller jusqu'à obtenir un doctorat au début des années 50. Or, il faut savoir qu'à l'époque, je prends par exemple les universités américaines qui avaient 2 ou 3 000 étudiants en 1950, 15 ans plus tard, ils en ont 30 000. Donc, la grande révolution de l'éducation survient après. Donc, dans ce cadre-là, au niveau intellectuel, il fait partie d'un monde privilégié, dans le sens-là, quelque chose d'exceptionnel, d'être capable d'obtenir un doctorat au début des années 50.
Martin Luther King naît en 1929, c'est-à-dire à un moment où les Afro-Américains sont interdits de séjour à peu près partout dans l'espace public.
On est sous les lois de Jim Crow, qui fait qu'en termes pratiques, surtout qu'on dépasse Washington, on rentre dans un nouveau monde. Puis ça va durer jusqu'au début des années 60. Colin Powell, qui a grandi à New York, il devient officier dans l'armée. Il découvre que, même s'il vient du Nord, mais il devient assujetti aux lois de ségrégation. Lui, officier de l'armée, il ne pouvait pas vaincre ce système-là.
Quand est-ce que Martin Luther King va concrètement adhérer à cette politique de non-violence dont il va faire l'essentiel de son discours?
En fait, c'est un long cheminement intellectuel qui va commencer, qui est enraciné directement sur la situation qu'il a vécue. Mais au lieu de se révolter, il va trouver une façon de développer une contre-stratégie pour lutter devant ce fléau-là, comme je pourrais dire. Dès ses premières études collégiales, bien, il découvre d'abord Thoreau. Ensuite, il va découvrir Gandhi, et ainsi de suite. Pour, au début des années 50, quand il fait son doctorat, bien, il est capable de faire sa propre synthèse sur cette question-là.
J'ai vu à plusieurs reprises Martin Luther King blessé par des pierres, par des pavés, par des bouteilles, le sang ruisselant sur son visage, tomber, se relever, reprendre la marche et, protégé tant bien que mal par la police de Chicago, poursuivre avec obstination jusqu'au bout de 3 semaines où, à ce moment-là, le président Johnson soumit au Congrès de Washington une nouvelle loi sur l'égalité dans le logement, la possibilité pour le noir de devenir un jour locataire ou propriétaire d'un appartement ou d'une maison aussi confortable que celle que possèdent les blancs un peu partout à travers les États-Unis. Une fois de plus, une non-violence, mais une non-violence qui avait fait couler le sang des noirs non-violents, avait quand même triomphé. Ce devait être, je crois, l'une des dernières grandes manifestations à laquelle prenait part le pasteur Martin Luther King, en attendant celle qu'il préparait dans les rues de Washington pour le 22 avril prochain.
On le dit très persévérant, non-violent et persévérant, dans une Amérique complètement ségrégationniste. Ça veut dire quoi? Qu'il ramasse les coups sans les rendre?
Si on recourt à la violence, tu ne fais que attirer la violence contre... De la même façon que Gandhi avait trouvé. Donc, la meilleure façon, devant l'oppression, c'est se montrer calme, se montrer résilient, ne pas abandonner tout le temps, et de mettre avec ça les valeurs morales de son côté. Et c'est ce qu'il va faire dans les années 50. Donc, sa vision religieuse lui permet d'intégrer ses valeurs de non-violence et d'en transformé en une action politique extraordinaire pendant 10 ans à peu près.
En fait, en 1953, King a diplôme en poche la possibilité de devenir donc pasteur. Vous parlez d'ailleurs d'un jeune pasteur prometteur. C'est quoi ses premières expériences de pasteur?
Comme la majorité des pasteurs de l'époque, la meilleure façon, la meilleure stratégie pour eux, c'est de faire le moins de vagues possible. Et Martin Luther King, normalement, aurait été dans cette voie-là. Sauf qu'il y avait un ingrédient de base. À cause de ses talents de communication, et comme il avait étudié dans le Nord, d'abord en Pennsylvanie, puis ensuite à Boston, on lui a offert des postes importants dans des églises afro-américaines du Nord, ou bien même de devenir professeur d'université, même de devenir doyen dans une faculté. Donc, les gens avaient déjà perçu tout le talent, sauf conscient de la situation du Sud. Ils considéraient qu'il y avait un devoir de retourner dans ses racines, dans son milieu, et d'essayer de changer la situation-là. Et c'est ça qui va l'amener à accepter, comme il va marier une afro-américaine d'Alabama, mais il va choisir d'aller s'installer en Alabama. Et non, il était déjà l'assistant de son père à Atlanta. Il aurait pu s'installer à Atlanta, mais il a relevé le défi d'aller en Alabama. Et la situation qu'on survient à ce moment-là, il ne court pas après, mais il est confronté à un dilemme important. Une activiste qui était en même temps la couturière, qui décide de violer les lois de Jim Crow. Et on l'interpelle pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire. Et là, il va accepter de devenir le leader du mouvement. Il va être propulsé sur la scène mondiale, et non seulement nationale. En l'espace d'un an, on ne parle plus que de Martin Luther King.
I got into Memphis, and some began to say the threat, or talk about the threat that were out. What would happen to me from some of our sick white brothers? We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place.
Il est chef de file. C'est le feu aux poudres de la lutte pour les droits civiques.
Il faut dire qu'ils amènent un atout. C'est un peu exactement à l'inverse de ce qui se passe présentement avec la Cour suprême des États-Unis. En 1954, la Cour suprême des États-Unis a déclaré illégale la question de ségrégation raciale sur la base que les minorités, comme les Afro-Américains, ne pouvaient pas avoir des services égaux aux Blancs. Et donc, on pouvait, dans ce cadre-là, de penser qu'il y avait une volonté politique de changer la situation. Sauf que, même si on a quelque chose qui est exprimé, il n'est pas dit que les gens vont être capables de saisir l'occasion. Et la force du leadership de Martin Luther King, c'est de percevoir très bien la dynamique de la situation et d'être capable d'en prendre le leadership. Et paradoxalement, il va se montrer un leader conservateur. Il connaît très bien que si on va trop loin, trop vite, les répercussions que ça va avoir. Et donc, Martin Luther King, c'est ça, c'est amener le changement et de façon radicale, tout en se montrant conservateur. Et ça explique d'ailleurs, comme je montre à la fin du livre, que paradoxalement, aujourd'hui, les milieux conservateurs américains ont tendance à vouloir récupérer l'image de Martin Luther King.
Dès 1956, King, dans la foulée, comprend qu'il y a lieu à la fois de fédérer, de créer un mouvement national des droits civiques, mais même si vous le qualifiez d'activiste permanent, vous dites que c'est aussi un leader modéré, il ne veut pas d'une révolution sanglante.
Retournons à ses bases religieuses. De la même façon qu'au 19e siècle, pour obtenir l'émancipation raciale contre l'esclavage, les Noirs américains, ils faisaient appel, ni plus ni moins, à des valeurs chrétiennes, un peu comme dans l'Exode de Moïse, et ainsi de suite. Ils prenaient des symboles religieux très importants. Ce que Martin Luther King cherche à récupérer tout l'héritage religieux comme force politique. Et c'est là un des problèmes qui va arriver. À partir de 1955, à peu près, il y a des mouvements plus radicaux, plus laïcs au sein des communautés afro-américaines qui vont commencer à contester la vision de Martin Luther King comme s'il n'allait pas assez loin, comme s'il n'était pas assez radical, alors que les autres deviennent beaucoup plus soit marxisants ou ainsi de suite. Il devient un peu comme dépassé par la situation.
King était critiqué par les éléments jeunes. Il restait évidemment le plus populaire auprès de toutes les masses noires dans les grandes villes et dans les campagnes des États-Unis. Dans le Sud, c'était toujours le héros, le dieu sans égal. Mais pour conserver son influence sur les masses des ghettos urbains et notamment sur les jeunes, il avait dû durcir son attitude. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de ces apôtres de la violence, ces Rap Brown, ces Stokely Carmichael et tous ceux qui les suivaient, dénonçaient Martin Luther King comme un oncle Tom, c'est-à-dire un noir rallié à la cause des blancs. Martin Luther King à la retraite, il était fréquent d'entendre ce cri prononcé lors des dernières réunions noires auxquelles j'ai pu assister à Washington. King, ça avait été d'abord la lutte pour les droits civiques et pour les droits politiques. Et puis, brusquement, il s'était reconverti dans cette lutte pour les droits économiques, pour l'amélioration du niveau de vie des Noirs. Martin Luther King avait découvert que, malheureusement, la garantie constitutionnelle des droits politiques des Noirs américains n'était pas tout, qu'il fallait aussi amener les Noirs à vivre comme des hommes, à partager cette richesse du pays le plus puissant et le plus riche du monde. Et avec Martin Luther King, c'est peut-être maintenant la non-violence qui disparaît. L'extrémisme va peut-être l'emporter. Tous ces mouvements révolutionnaires comme le US, comme le mouvement d'action révolutionnaire, comme les Mau Mau de Harlem, vont maintenant s'en donner à cœur joie. Voyez, pourront-ils dire à tous les Noirs des ghettos et des campagnes, voyez, la non-violence n'a pas payé. Martin Luther King est mort. Il ne faut pas faire confiance aux Blancs. Descendons dans la rue et battons-nous, faisons couler le sang des Blancs. Voilà peut-être les théories maintenant qui vont l'emporter avec cette mort tragique de celui qui restera l'apôtre des Noirs, l'apôtre de la non-violence aux États-Unis. Et ceci est d'autant plus tragique que ce sang qui coulera aux États-Unis, à mon avis, sera un sang inutile, puisque sur cette terre américaine, de l'Atlantique au Pacifique, de la frontière canadienne à la frontière mexicaine, les Noirs et les Blancs, quelles que soient leurs idées, sont condamnés à vivre ensemble.
Après une série de sit-ins que les mouvements étudiants afro-américains ont organisés en 60, année importante, c'est une année électorale, Martin Luther King va même connaître la prison et on va même, à un certain moment, faire en sorte qu'il côtoie en prison des gens qui pourraient s'en prendre à lui.
Il va être arrêté plus d'une trentaine de fois. Il ne sait jamais ce qui peut lui survenir. En 60, on l'emmène d'Atlanta. Sans rien dire, on va l'emmener vers une des prisons les plus infectes qui existent dans le Sud. Bien là, il peut très bien penser qu'en fait, on veut le lyncher parce qu'il va être mis avec des Blancs condamnés à la prison à vie. Ça ne causera rien pour eux d'éliminer un Noir. Et donc, dans ce cadre-là, ça prend énormément de courage politique. C'est par l'intermédiaire de sa femme qu'ils vont réussir à obtenir le soutien de la future administration Kennedy. La lutte n'est pas facile, mais la force de Martin Luther King, c'est qu'il est toujours fidèle à ses principes. Ça aurait été facile de se révolter puis de devenir agressif, mais c'est comme la rancœur qu'il pourrait avoir. Il est capable de la canaliser et de la garder pour lui et non de provoquer des choses.
Est-ce qu'on peut, après ça, parler d'un véritable partenariat entre Martin Luther King et John Fitzgerald Kennedy, devenu président des États-Unis?
Graduellement, ça va se faire. Martin Luther King représentait un pain in the ass. Il est un sauve-douleur constant qu'on essaie d'éviter. Et c'est Robert Kennedy, qui est l'avocat général, qui essaie de protéger son frère, de ne pas que le président soit impliqué trop, pour que ça ait de dommages au plan politique. Mais graduellement, ils vont réussir à convaincre, par ses actions, le président qu'au fond, il faut qu'il se montre ambitieux, qu'il aille beaucoup plus loin. Kennedy va faire le saut le 11 juin 1963. L'Amérique est à un genre de croisée des chemins. Puis, si on veut que l'esclavage soit véritablement disparu, que tout le monde ait l'égalité raciale et ainsi de suite, bien, il faut passer une étape de plus. Et c'est là qu'il va envoyer au Congrès son projet de loi pour les droits civiques. Ce qui va permettre l'adoption des lois civiques. Il y a eu d'abord le discours de Martin Luther King à Washington le 28 août 1963 qui va galvaniser, ni plus ni moins, tous les éléments progressistes des États-Unis et des Afro-Américains.
I have a dream, and so let freedom ring. From every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last.
La deuxième élément qui joue, c'est l'assassinat de Kennedy. Les gens au Congrès qui avaient des résistances, on est secoué par la mort d'un président bien-aimé et la loi civile devient comme l'héritage de Kennedy. Et le courage et le leadership du président Johnson, il connaissait très bien comment le Congrès fonctionne. Il venait du Sud, il connaissait les mentalités des sudistes pour les forcer la main. Première grande victoire de Martin Luther King.
L'assassinat de Kennedy, de John Fitzgerald, l'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat de Robert Kennedy, tout cela va marquer la décennie de quelques balles sanglantes.
Dans les années 50, on est à bien des niveaux encore une société très conservatrice. On ne fait que sortir vers 1955 du McCarthyisme. On avait même, des années 50 aux États-Unis, c'est, si on regardait les émissions de télévision, c'est toute une vision où de la femme à la maison, et on a l'opulence économique, mais en même temps, on est dans une société très fermée. Mais graduellement, qu'est-ce qui se produit au début des années 60 qui va jouer un rôle énormément? D'une part, c'est l'arrivée des bébés boomers. Dans les années 60, la jeunesse n'a jamais eu un poids aussi important dans la société américaine qu'elle l'a eu à ce moment-là. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, parce qu'ils deviennent retraités, et ainsi de suite. Ça devient une force progressive qui veut faire changer les choses. Le deuxième élément qui joue, dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place le GI Bill. En d'autres mots, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pour bien réussir dans la vie, vous avez besoin de ce qu'on appelait le high school, des études. Bien, en France ou en Europe, on dirait comme la première partie, là, faire quelque chose comme une 10e ou 11e année de scolarité. Maintenant, les États-Unis vont devenir la société, déjà dans les années 60, si vous êtes entre 20 et 25 ans, le quart de la population va dans les universités. On devient la société la plus instruite. Ça amène un courant de progrès énorme. Et c'est de là, par ricochet, Martin Luther King va pouvoir miser sur ça. Donc, dans le mouvement des droits civiques, ce n'est pas seulement la protestation des Afro-Américains. Ça va être l'élan de la jeunesse blanche qui sont prêts à se battre, à monter aux barricades pour soutenir une société plus juste, plus égalitaire. Mais la force de Martin Luther King, au lieu de faire la séparation des races et des choses, il connaissait la dynamique de la société américaine et il va être capable d'utiliser ça. Et il va très bien comprendre pourquoi la question de la non-violence devient importante. Il savait que les Blancs du Nord vont devenir outrés de voir ce qui se passe dans le Sud à cause de l'arrivée de la télévision et de voir dans, soir après soir des policiers avec le chien qui s'attaquent à des manifestants paisibles et ainsi de suite, sur lesquels Martin Luther King est capable de miser pour développer son action.
Avec un héritage aujourd'hui de Martin Luther King?
L'ironie, c'est qu'on dirait que jusque vers 2008, on avait le sentiment que graduellement, les États-Unis étaient en train de régler le problème racial. Et on dirait que l'élection de Barack Obama a créé comme une genre de douche froide que les Américains blancs vont avoir le sentiment qu'ils sont en train de perdre leur pays. Et que ça, les États-Unis deviennent beaucoup plus une société multiraciale et autres. D'ailleurs, au niveau statistique, autour de 2045 à peu près, les Blancs d'être minoritaires, ça amène un genre d'immense ressac dans lequel ça va permettre à l'élection de Donald Trump. Mais en maintenant, on le voit aussi, c'est qu'à tous les niveaux, les Blancs, à l'heure actuelle, surtout avec le Parti républicain, cherchent à prendre le contrôle. Donc, on va réduire le droit de vote des gens. Par exemple, avec Donald Trump, partout, on met des jeunes juges ultra-conservateurs. Et puis, 96 % des hommes blancs dans les systèmes judiciaires. On a pacté la Cour suprême. Donc, on a à l'heure actuelle, c'est exactement la dynamique inverse de ce qu'on avait dans les années 50, où on était dans une phase d'ouverture. À l'heure actuelle, c'est comme si on essaye de préserver à tout prix et même de renforcer le statu quo. Et là, on le voit dans les 5-6 dernières années, souvent on va parler des Black Lives Matter, mais on a plus que ça. C'est qu'en même temps, c'est la montée des mouvements néo-nazis un peu partout, la violence raciale qui devient plus importante. Donc, dans ce sens-là, il y a une genre d'ironie. Et on va avoir besoin d'un certain recul pour savoir dans quelle mesure l'héritage de Martin Luther King ne pourrait pas être hypothéqué. On regarde à l'heure actuelle, même à la Cour suprême, il y a une majorité des juges, y compris un juge noir, mais qui sont prêts à bafouer les droits des Noirs pour limiter, que ce soit sur le droit de vote ou des choses de même. Donc, dans ce cadre-là, on est dans un genre de croisée des chemins, présentement.
Merci pour ces précisions, Gilles Vandal.
C'est moi qui vous remercie.
Et je rappelle que vous avez dressé cette biographie sous le titre « Martin Luther King, un leadership en faveur des droits civiques » publié chez Mardaga.